L'agité du local. Du lundi au vendredi
à 12h15 sur le 100 attends sur le
sur 107.9 101.7
sur notre radio.
Et oui, sur le 3 Radio, bonjour, bienvenue dans votre émission L'Agité du local. Bonjour Claire, comment ça va ?
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, et en direct à Laval, et j'ai parlé trop vite hier, il ne fait pas beau aujourd'hui à Laval,
oui.
Il pleut.
Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, en effet, là, je pense qu'on a tous dû sortir le parapluie ce matin, ou ouais. Le kawaii, le ciré, enfin tout ce qu'il faut. Contre la pluie, bien sûr. On va en parler justement d'ici quelques secondes. Mais on va parler aussi dans cette émission d'un collectif qui s'oppose aux subventions publiques accordées à l'Université catholique de l'Ouest pour son agrandissement. On va parler aussi d'un métier méconnu en plein essor pourtant, ergothérapeute, et une formation à découvrir ce week-end lors des portes ouvertes virtuelles de l'Institut de formation à Laval. Et en fin d'émission, notre feuilleton à l'atelier de menuiserie partagée se poursuit avec un focus aujourd'hui sur les nombreux stages bientôt proposés.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité, des routes impraticables à cause des inondations.
On en parlait justement tout de suite. Si vous êtes au volant, attention, la circulation est interdite sur plusieurs routes au nord du département. La D253 au niveau de Tubeuf et la D266 qui traverse Saint-Frimbaud de Prière. A noter aussi que l'accotement sur un ouvrage hydraulique a été emporté au lieu dit la basse douettée à Juvigné. Une déviation a donc été mise en place par les routes départementales 165 et 137 entre Juvigné et Bourgneuf-la-Forêt.
Une courbe de l'épidémie encore en hausse.
C'est ce que montre le dernier bulletin de l'Agence régionale de santé. On compte 173,9 cas pour 100 000 habitants en Mayenne. Le taux de positivité est lui aussi en hausse avec 7,3%.
Hommage à Delphine Subilo, élue municipale de Château-Gontier sur Mayenne.
La municipalité castro-gontérienne a rendu hommage lundi soir à Delphine Subilo, aide-soignante et élue municipale depuis 2014, disparue à l'âge de 47 ans. Pour Philippe Henry, le maire, Delphine Subilo était une femme dotée de valeurs sociales fortes et attachée à la défense des services publics et au respect des valeurs républicaines. Elle exprimait ses convictions tout en respectant celles des autres. Fin de citation. Elle était aussi la créatrice du club de tennis de table de Château-Gontier depuis 2011.
Appel à manifester lancé par les syndicats de la fonction publique demain.
La CGT, FSU Solidaire et la Fédération Autonome, les branches de ces syndicats, se réunissent demain jeudi à midi, place du 11 novembre à Laval. Ils réclament une autre politique de relance qui conditionne les aides publiques à une véritable politique de maintien de l'emploi, avec notamment une hausse immédiate du point d'indice et l'arrêt des restructurations et des privatisations qui remettent en cause les missions publiques.
L'épicerie solidaire pour les étudiants ouvre aujourd'hui à Laval.
Installé sur le campus universitaire Lavallois, ce marché solidaire étudiant, ainsi qu'il est nommé, organise sa première distribution cet après-midi de 14h à 17h. Un projet mis en place par la Banque alimentaire, la Croix-Rouge et le département de la Mayenne, alors que les étudiants, on le sait, sont durement touchés par la crise sanitaire. L'objectif, c'est de distribuer l'équivalent de 14 repas par semaine aux étudiants bénéficiaires.
À Château-Gontier, le Carré demande à rouvrir ses portes.
La scène nationale et le centre d'art contemporain de Château-Gontier font partie des signataires d'un courrier adressé au gouvernement. Ils y demandent bien sûr la réouverture de leur salle. Pour une heure, pour un jour, pour une semaine ou pour un mois, laissez-nous entrouvrir nos portes, plaide-t-il, même si nous devions les refermer en cas de nouveau confinement.
32 logements bientôt construits dans le quartier Théval à Laval.
L'ensemble immobilier est construit par le bailleur social Medjuan Habitat, rue de la Tuilerie. 32 logements superposés sur deux niveaux y seront bientôt disponibles d'ici le premier semestre 2022. Depuis 2017, Medjuan Habitat aimerait aussi lancer une construction sur un terrain situé au bout de l'allée Michel-Denis, mais elle attend l'accord de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, pour lancer les Jardins de Malte, qui proposeront 20 pavillons et une longère réhabilitée pour en faire 3 logements locatifs.
Et Marie, ils disent non au financement public de l'UCO à Laval.
Un collectif s'est créé en opposition aux subventions, au versement des subventions par la région, le département et l'agglomération de Laval à l'UCO pour son agrandissement. L'Université catholique de l'Ouest a pour projet de déménager du centre-ville au campus universitaire de Changé, un investissement qui serait financé à 70% par les institutions publiques, inadmissible pour les 14 syndicats, organisations et partis politiques qui composent le collectif, représenté aujourd'hui par Bernard Bonneterre, président de la FCPE de la Mayenne, et Michel Rose, président de la Ligue de l'enseignement en Mayenne.
Il y a un aspect de l'équité sociale, ce sont donc des enseignements payants. La principale raison, c'est que les fonds publics vont donc servir de l'enseignement privé, donc qui a un coût. L'inscription dans les enseignements privés pour l'UCO notamment, ça peut aller de 3 000 à 4 000 euros à 7 000, 8 000 suivant les filières. Dans l'enseignement public, c'est 200 euros, 300 euros. Donc la justice sociale n'est pas la même.
Alors ce qui nous interpelle, c'est le fait que des collectivités vont avec des fonds publics participer en quelque sorte à l'enrichissement patrimonial ou patrimoine immobilier d'une université confessionnelle. L'université, la Cato d'Angers, est une université confessionnelle. Que l'UCO ait une stratégie de développement, comme c'est le cas, on s'en aperçoit, Niort, Le Mans, Laval, et qu'elle assure elle-même son financement. On dirait pourquoi pas, c'est d'un ordre privé, là, mais faire appel à des fonds publics de collectivité, là, ça interpelle. Et là, là-dessus, on est contre, on n'est pas d'accord. Qu'il y ait ensuite, comme c'est le cas aujourd'hui, des aides au fonctionnement, à la limite, pourquoi pas, mais sur de l'investissement, c'est quand même choquant. Ça veut dire que l'espace qui va être occupé par cette Cato d'Angers, eh bien, ne pourra pas l'être ensuite pour une éventuelle extension de l'Université publique du Mans. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette considération-là, dans ce chantage à l'attractivité où si on ne vient pas chez vous, on ira voir ailleurs.
Eh bien, on a rencontré hier le président donc, du conseil départemental de la Mayenne. Donc, eux, ils auraient bien voulu, d'après leur dire, donc, financer un enseignement supérieur public. Mais malheureusement, l'État ne présente pas de projet. Il y a un désengagement de l'État au niveau de l'enseignement supérieur. Et donc, comme ils ont eu l'assurance, on peut dire qu'il n'y aurait pas de possibilité d'avoir de l'enseignement supérieur public à Laval. Ils n'ont aucune autre solution pour développer l'enseignement supérieur à Laval. Donc, de façon pragmatique, ils financent le privé.
Mais le collectif n'entend rien lâcher. Il a rendez-vous la semaine prochaine avec Florian Berco, le président de Laval Agglomération, pour évoquer justement ce dossier. À l'occasion des portes ouvertes de l'Institut de formation ce samedi, Zoom sur le métier d'ergothérapeute, sa formation, son avenir. Vous entendrez tout ça d'ici quelques minutes, le temps d'écouter The Do avec Going Through Walls. You walk straight ahead, straight ahead.
In fact, you walk straight ahead.
The Do sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local, votre quotidienne. Ils font tout pour changer ce qui vous gêne dans votre quotidien. Eux, ce sont les ergothérapeutes qui prennent en charge un patient lorsqu'un problème de santé l'empêche de travailler, de se déplacer ou de se soigner. L'Institut de formation d'ergothérapie de Laval est le seul de la région et il organise ses portes ouvertes virtuelles ce samedi. L'occasion justement de se pencher sur cette profession méconnue avec Géraldine Poriel qui enseigne à l'Institut de formation en ergothérapie à Laval.
Un ergothérapeute, c'est un professionnel de santé, donc au même titre que les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, toutes les filières de la santé. Et donc l'ergothérapeute intervient auprès de personnes de tout âge, que ce soit l'enfant jusqu'à la personne âgée. Et l'objectif, en fait, c'est de prévenir ou réduire ou supprimer les problèmes que peuvent rencontrer les personnes dans la réalisation de leurs activités, de leurs habitudes de vie. Et donc, ce qui fait qu'il va agir auprès de la personne, si elle présente des difficultés fonctionnelles, cognitives, psychiques, donc pour améliorer ses habiletés, ses aptitudes, mais aussi il va intervenir sur son environnement, qui est en général la principale cause de la réduction de ses habitudes de vie. Et il va aussi intervenir sur ses habitudes de vie. Alors, ce que dans le jargon aujourd'hui, en ergothérapie, on parle d'occupation, donc c'est-à-dire l'ensemble des activités qui ont du sens pour elle et qui ont du sens dans la société. Et donc tout ça pour promouvoir, faciliter son inclusion sociale. Voilà, alors c'est quoi l'inclusion sociale ? Eh bien, c'est ce que nous faisons tous quand tout va bien, c'est-à-dire aller à l'école, aller travailler, aller voter, s'occuper de ses enfants, s'occuper de soi, avoir des loisirs, aller au cinéma, faire du sport, etc. Voilà, donc vraiment l'ergothérapeute, son objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre de réhabiliter les personnes qui sont en restriction de participation en raison d'un environnement qui n'est pas facilitateur à la pleine réalisation de ses habitudes de vie en lien avec des difficultés psychiques, cognitives, sensorielles, motrices, etc.
C'est vrai qu'on comprend que c'est très varié, aussi bien de par le public, de par les situations que vous rencontrez. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples pour qu'on se rende un peu mieux compte ?
Par exemple, un enfant scolarisé qui présente des difficultés dans les apprentissages en lien avec des troubles d'origine de dyspraxie, dysorthographie, etc. Et donc l'ergothérapeute va intervenir auprès de cet enfant, mais aussi auprès de l'environnement de l'enfant, dans l'école, pour pouvoir favoriser l'accès aux apprentissages et donc permettre à cet enfant d'être scolarisé. Donc ça, c'est auprès des enfants. Auprès d'une personne âgée qui vit soit à domicile, soit en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, eh bien, il va évaluer finalement les possibilités de la personne âgée sur ses habitudes de vie. Donc déjà, faire une recension des habitudes de vie, celles qui lui posent problème et qui sont importantes pour elle. Il va réaliser un diagnostic, qu'est-ce qui fait que ses habitudes de vie aujourd'hui sont impactées. Et ensuite, il va soit proposer l'aménagement de la salle de bain, du jardin, de la cuisine, en fait, en lien avec ce qui est prioritaire pour la personne. Et puis, il va lui permettre aussi de développer ses habiletés en fonction de ce qui pose problème.
Et un ergothérapeute peut travailler du coup alors à l'hôpital ou en libéral? Quels sont ces lieux en fait de travail?
Alors aujourd'hui, c'est en plein essor d'abord cette profession-là, en lien avec, j'ai envie de dire, les nouvelles orientations, en lien avec le système de santé, en lien aussi avec les lois, pour ne pas citer la loi de 2005, qui quand même pose le cadre de la pleine participation sociale des personnes en situation de handicap. Donc ce qui fait que l'ergothérapeute, on va le retrouver à l'hôpital, sur un plateau technique, donc en service de soins de suite et de réadaptation. On va le retrouver en centre de rééducation, mais on va le retrouver aussi, comme moi par exemple, en dans une structure de réinsertion socio-professionnelle, dans les EHPAD. Et puis le libéral commence à se développer de plus en plus, comme je disais, en lien avec les besoins qui augmentent, dus à la maladie chronique, dus à la prise en compte des troubles des apprentissages, les personnes atteintes de cancer pour qui il y a une problématique de reprise d'activité. Voilà, donc c'est très très varié.
Vous disiez que c'est un métier, en tout cas ergothérapeute, qui se développe, donc forcément j'imagine aussi qui évolue. Est-ce que vous avez vu vraiment au quotidien, dans la pratique, des choses qui ont changé, on va dire, depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, par oui. rapport à aujourd'hui?
Oui, 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 bien sûr. Donc non seulement on le voit, mais ce sont aujourd'hui la recherche qui le montre, hein, sur les données probantes. L'ergothérapie est une profession récente en France, même si elle est très ancienne de par ses valeurs et son approche. Et donc quand elle est arrivée en France, elle s'est enclin accrochée en fait à des disciplines qui n'étaient pas propres à l'ergothérapie, donc les disciplines du secteur plutôt sanitaire et médical. Donc ce qui fait que dans les années 50 jusque dans les années 70-90, finalement les ergothérapeutes pratiquaient, développaient plutôt une ergothérapie centrée sur la rééducation et sur la réadaptation des personnes, quel que soit leur âge. Et puis dans les années, on va dire 70-90, et surtout 90, des modèles ergothérapiques sont arrivés de par la recherche outre-Atlantique. Et donc, ce qui a fait que nous avons basculé notre pratique, et la finalité n'était plus la rééducation des fonctions déficitaires, quelles qu'elles soient, mais plutôt un retour sur la réhabilitation pour les habitudes de vie et la participation sociale. Donc ce qui fait que le virage de cette orientation de l'ergothérapie recentrée sur la réalisation des habitudes de vie apparaît depuis quelques années en France, et donc ce qui induit une restructuration des services, des outils d'évaluation, un diagnostic en ergothérapie qui se développe. Et donc, ce qui fait aussi qu'on ressente notre spécificité, notre cœur de métier.
C'est un métier qui se développe. Est-ce que ça se retrouve aussi sur la formation? C'est-à-dire qu'il y a plus de places aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 10 ou 20 ans?
Il y a déjà plus d'instituts. Quand moi, j'étais diplômée en 1999, il y avait 8 instituts en France. Aujourd'hui, on est à plus de 20. Voilà, donc en 20 ans, l'augmentation des instituts de formation a augmenté largement, donc ce qui augmente le nombre d'ergothérapeutes diplômés. Et cette augmentation de nombre d'ergothérapeutes diplômés est en lien avec les besoins du territoire.
Donc malgré tout ça, il n'y en a qu'un seul donc dans la région, vous le disiez, et il
oui.
est à Laval, cet institut de formation. Vous proposez combien de places actuellement?
Alors sur Laval, nous avons des petites promos, c'est-à-dire que ce sont des promos de 20 étudiants.
Sachant que la formation, elle se fait en 3 ans, c'est ça?
Exactement. Donc la formation se déroule en 3 ans. Donc ce sont 3 années universitaires, donc elles sont réparties en semestres. Donc il y a 6 semestres qui durent 20 semaines. Et donc il y a de l'alternance entre des temps de formation théorique, pratiques qui sont réalisées dans l'institut de formation avec des cours magistraux, des travaux dirigés, du temps de travail personnel et des temps de formation clinique sur les lieux d'intervention des ergothérapeutes. Et en gros, il y a 36 semaines de stage à temps plein qui sont réparties sur 5 périodes sur les 3 années.
Donc forcément une formation qui s'apprend aussi sur le terrain, j'imagine.
Oui. Il faut donc de la théorie autour de 6 grands domaines de formation, les sciences humaines, sociales, le droit, les sciences médicales, les fondements même de la pratique en ergothérapie, donc comprendre les habitudes de vie, qu'est-ce qu'une habitude de vie, qu'est-ce que la démarche, le raisonnement professionnel, le raisonnement clinique. Et puis, tout le domaine vraiment où là, on va rentrer en profondeur sur les techniques et les outils d'intervention de l'ergothérapeute. Donc, qu'est-ce qu'une aide technique? Comment on fait une prescription d'aide technique? Qu'est-ce que l'environnement? Comment on adapte l'environnement? Voilà, donc ça, ce sont des exemples. Il y en a plein, c'est absolument pas exhaustif. Et puis après, les temps de stage où les étudiants doivent réaliser des stages cliniques dans les trois domaines, donc service de soins de suite et de réadaptation, en santé mentale, c'est le deuxième, et le troisième, le lieu de vie. Donc là, tous les endroits où vivent les personnes que les ergothérapeutes accompagnent.
Et donc dans cette formation, l'idée, c'est j'imagine d'être polyvalent et de pouvoir intervenir auprès de tous les publics?
Oui. Oui, donc il y a un gros travail aussi de développement personnel, hein, de travailler la relation à soi, la relation à l'autre. Ça fait partie d'ailleurs des prérequis qui sont développés pendant les trois années de formation, mais dans les savoir-être, voilà, il faut disposer d'aptitudes de relationnelles, d'écoute, d'empathie, savoir travailler en équipe. Un ergothérapeute ne travaille pas seul, il travaille en équipe interdisciplinaire, que ce soit dans le domaine des équipes médicales, mais aussi sanitaire, social et médico-social. Et donc des capacités d'adaptation, de flexibilité, parce que c'est s'adapter à chaque individu et que chaque individu avec son altérité, et puis être en capacité aussi d'interagir avec autrui, et autrui, quand il ne communique pas avec le langage, mais avec d'autres modes de communication, c'est aussi ça, quoi. Donc ça fait partie vraiment des prérequis qu'on retrouve d'ailleurs sur Parcoursup pour être et devenir ergothérapeute.
Et justement, on pourra donc découvrir là tout ce que vous venez de nous expliquer, évidemment avec plus de détails lors des portes ouvertes numériques organisées ce samedi. C'est aussi important, j'imagine, de le maintenir, puisque ergothérapeute, c'est peut-être pas le métier auquel on pense en premier si on veut s'orienter vers les métiers de santé.
Exactement. Alors c'est vrai que souvent dans nos représentations en lien avec l'histoire, souvent les élèves, lycées ou même étudiants spontanément évoquent médecine, évoquent master kinésithérapeute. Et puis parfois, finalement, quand ils découvrent ce métier-là, qui ne guérit pas, on ne guérit pas, mais qui va vers justement la qualité de vie, le bien-être, la participation, en fait, beaucoup d'élèves et d'étudiants découvrent ce métier-là. Et surtout les nouvelles orientations. Et donc beaucoup d'étudiants qui rentrent en première année, ils nous disent oh, « mais je ne savais pas que c'était tout ça, l'ergothérapie ». Voilà, parce que souvent il y a une vision assez restreinte du métier de l'ergothérapeute en centre de rééducation à l'hôpital, qui est une partie de la pratique en ergothérapie. Mais aujourd'hui, en lien avec les orientations, beaucoup d'étudiants peuvent se retrouver dans différents lieux de pratique où ils vont complètement s'épanouir dans leurs orientations professionnelles.
Si on est intéressé justement par cette formation, vous disiez il y a 20 places disponibles. Comment on fait pour candidater, pour s'inscrire?
Alors, ça aussi c'est très important parce qu'il y a eu plusieurs modalités pour intégrer un institut de formation d'ergothérapie depuis ces dernières années. Pendant très très longtemps, c'était une intégration sur un concours. Aujourd'hui, il n'y a plus de concours. Donc il n'y a plus de concours en tout cas sur Laval jusqu'à cette année. Donc rentrée septembre 2020, c'était un recrutement via une première année Pluripass à Angers ou une première année STAPS au Mans. Pour la rentrée septembre 2021, ce n'est plus sur une rentrée parcours universitaire première année, c'est sur Parcoursup. Donc à ce stade-là, il est important pour tous ceux qui souhaitent devenir ergothérapeute et intégrer les instituts de formation, dont celui de Laval, eh bien, de se connecter sur Parcoursup et de faire le vœu d'intégrer un institut de formation en ergothérapie.
Cette année, quelle incidence a eu le confinement et la crise sanitaire sur leurs études?
Alors, donc les étudiants sont malheureusement confinés en distancié depuis la première vague entre guillemets. Donc le 16 mars, nous avons dit au revoir aux étudiants et nous avons mis en place l'enseignement distanciel. Tout le monde a dû s'adapter sur cette première période. Nous avons pu assurer la continuité pédagogique de la quasi-totalité des unités d'enseignement, sauf celles qui étaient l'année dernière mises en situation pratique, puisque au premier confinement, tout le monde était à la maison. Et donc, nous avons reporté deux unités d'enseignement pour la troisième année. Et donc, ils ont repris et ils ont pu, en septembre, par contre, où là, la doctrine sanitaire était un peu plus allégée à la rentrée, donc nous avons pu quand même assurer une reprise en présentiel. Et là, depuis novembre, nous continuons en distancié sur les enseignements qui ne peuvent pas se faire en présentiel, donc les cours dits magistraux, donc avec des visios. Et puis une fois par semaine, deux fois par semaine, en respectant les gestes barrières, bien sûr, sur une jauge de groupe à 10 étudiants, nous pouvons assurer des TP et des travaux dirigés.
Géraldine Poriel remarque malgré tout une certaine lassitude chez les étudiants, mais elle se réjouit qu'aucun d'eux n'ait vraiment lâché sa formation. Pour justement découvrir les formations et échanger avec les enseignants et étudiants, rendez-vous ce samedi matin de 9h à midi ou l'après-midi de 14h à 17h via le lien de connexion à retrouver donc sur le site chlaval.fr. Vous pourrez aussi découvrir l'Institut de formation de masso-kinésithérapie de Laval. On revient d'ici quelques minutes après la pause musicale assurée par June Milo featuring Les Oignons, oui, et ça s'appelle In Love with a Ghost.
I don't care if you don't, 'cause I know how to bring you alive, my soul. I'm in love with the ghost. Feed me with your sorries and lies, 'cause baby, I still wait for you to propose. I'm in love with the ghost. Can you stop, 'cause I'm obsessed? Can't you see that I'm a mess? Don't you know?
À l'écoute de l'agité du local sur l'autre radio. Et c'est le retour aujourd'hui de nos chroniques conso avec l'association UFC Que Choisir, présentée par son président en Mayenne, Jean-Michel Guinaudot. Jusqu'au 16 février, ce sont les soldes et voici comment ne pas vous faire avoir. Quelques petits conseils.
Auditeurs, consommateurs, bonjour. L'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe. On est en période des soldes d'hiver. Du 20 janvier au 16 février, tous les magasins, qu'ils soient physiques ou en ligne, affichent des réductions très importantes sur la plupart de leurs produits. Tout d'abord, rappelons que l'objectif des soldes est de liquider un stock de produits qui a des difficultés à s'écouler, comme les produits de saison, de mode, ou pour lesquels une nouvelle version les rend obsolètes. C'est pourquoi les produits soldés sont toujours en quantité limitée. Le vendeur n'a pas le droit de se réapprovisionner. Le produit doit avoir été proposé au moins un mois avant la date des soldes, le prix à cette date servant de base au calcul de la réduction. C'est pourquoi également on peut trouver dans le même magasin des produits soldés et des produits non soldés. Les produits soldés doivent faire l'objet d'un marquage spécifique avec l'indication de l'ancien prix, celui pratiqué au moins un mois et le nouveau prix. Cette règle vaut pour les magasins physiques que pour les magasins en ligne. En France, il est interdit de vendre à perte, c'est-à-dire au-dessous d'un prix d'achat majoré d'un certain nombre de frais. Les seules exceptions à cette règle sont les périodes des soldes. Les ventes privées, déstockages et autres opérations commerciales faites à grand renfort de publicité ne peuvent déroger à la règle de l'interdiction de vente à perte. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les moins 50, moins 75%. Un coup d'œil, c'est top, la caisse et je retourne chez moi. Malheureusement, quelquefois, il y a de mauvaises surprises. Si c'est la couleur, la forme, la taille qui ne conviennent pas, il n'y a pas de retour possible, sauf si, mais c'est rare, cette possibilité a été mise en avant dès l'entrée du magasin. Mais la plupart du temps, c'est écrit en gros, les produits soldés ne sont ni repris ni échangés. Ni repris ni échangés ? À voir, car le produit doit être conforme à sa description et à son usage. Si la taille indiquée sur l'étiquette est 40 et que, manifestement, il s'agit d'une taille 30, une manche plus courte que l'autre, l'ourlet n'est pas droit, à l'ouverture de la boîte, la couleur n'est pas celle indiquée, il s'agit d'un défaut de conformité et le code de la consommation impose au vendeur la réparation ou le remplacement de tout produit non conforme. Et s'il ne peut ni le réparer ni le remplacer, il doit le rembourser. Ce sont les règles de la garantie légale de conformité qui s'appliquent que l'achat ait été fait en magasin ou en ligne. Et pour les achats en ligne, que ce soit en période de solde ou non, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours. Pendant cette période de 14 jours, l'acheteur peut retourner le produit sans autre explication, les frais de retour étant à la charge du consommateur. Le remboursement doit intervenir sous les 14 jours. C'est pourquoi il faut être très vigilant dans l'ouverture du colis. Il faut tout renvoyer, le produit devant pouvoir être revendu en l'état. Attention, l'adresse de retour n'est pas toujours celle de l'adresse de l'expéditeur. En cas de difficulté, des informations et des modèles de lettres sont disponibles sur le site quechoisir.org. L'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufckechoisir.fr et notre page Facebook. Bonne semaine.
Merci et on vous retrouvera donc d'ici 2 semaines dans 15 jours. On poursuit donc forcément cette émission avec notre feuilleton qui est consacré cette semaine à l'atelier de menuiserie partagée de Quelaine-Singaud, un projet mis en place par Carole Clavreul pour mettre à disposition du matériel aux particuliers et favoriser les échanges de savoir-faire. L'atelier est accessible en libre service sur réservation, mais il y a aussi de nombreux stages qui seront proposés par des artisans. Explication avec Carole Clavreul.
J'ai un monsieur qui va venir pour fabriquer des nichoirs, un autre monsieur qui va venir pour s'initier au chantournage. Donc c'est bien, ça commence doucement et puis je mets en place beaucoup de stages. Je ne pensais pas avoir autant en fait, de retours positifs d'artisans qui m'ont vu dans la presse ou ont entendu à la radio et du coup m'ont contacté. Là, on découvre que les gens savent faire plein de choses. Il y a plein de pépites autour de nous. Et eux, ils ont envie de transmettre ça, mais ils n'ont pas forcément l'atelier chez eux. Donc moi, je m'occupe de l'organisation, des inscriptions, du matériel. Et eux, ils viennent, ils font le programme, ils animent. Donc c'est très complémentaire et c'est chouette, quoi. Donc, ce qui est prévu, en tout début, il y a de la céramique. Alors, les céramiques, le plus compliqué au niveau de l'investissement, c'est le four. Donc, je n'ai pas investi dans un four. Là, je vais faire justement un partenariat avec une personne qui vient animer, qui ramène les objets chez elle, qui les cuit et qui les rapporte la deuxième séance pour faire l'engobe, c'est-à-dire les décors. C'est une première approche. La tapisserie d'ameublement, donc j'ai deux tapissiers, dont une qui va commencer ici en mars, donc pour refaire son Voltaire principalement, mais les gens qui ont un bridge, ils peuvent aussi venir. J'ai aussi du tournage sur bois qui est prévu pour avril. Et puis avec un menuisier, on est en train de mettre en place plein de programmes pour des assemblages sur bois, pour l'affûtage, le travail à outils à main, électroportatif. Enfin, c'est voilà, il y a plein de choses qui vont arriver pour le printemps et l'été. On voit quand même qu'il y a des gens qui fabriquent un petit peu et qui vendent un petit peu ce qu'ils fabriquent et qui font des ateliers. Mais souvent, ils ont leur atelier qui peut accueillir une personne. Donc, il peut y avoir des stages pour une personne, mais c'est vrai que ça revient à des stages en général assez chers. Alors que là, c'est des stages qui sont ouverts pour des groupes de 6, 4 à 6 personnes. Donc, quand on remet tout ça, c'est un petit peu moins cher que ce qu'on peut trouver en individuel. Puis eux, ils cherchent aussi à rencontrer du monde parce que souvent, les artisans, voilà, ils travaillent seuls toute la semaine. Et puis, ils sont bien contents à un moment donné d'échanger, de rencontrer des particuliers, d'autres artisans. Et puis, c'est riche pour tout le monde, en fait. Pour la première année, ça va être beaucoup de stages pour des débutants. Et puis, justement, au fur et à mesure, quelqu'un qui va venir, qui va s'initier, eh bien, il va avoir envie de continuer, approfondir. Et puis, au fur et à mesure, je pense qu'on va avoir des stages qui seront de plus en plus poussés, tout en gardant des stages pour les débutants. Le but étant de pouvoir répondre aux demandes de la maximum de personnes.
Demain, on poursuit évidemment cette série et la gérante reviendra sur sa passion pour le travail du bois et pourquoi surtout elle souhaite la partager. C'est désormais l'heure de la rubrique initiative présentée par Claire et cette semaine, un petit peu de Mayenne aux Côtes d'Armor, Claire.
Et oui, depuis lundi se tient le festival Film Court à Dinan. Il y a un film tourné en Mayenne qui est sélectionné. Oui, c'est le court-métrage Désarticulé réalisé par Romain Barraud. L'histoire retrace la vie d'une jeune femme traumatisée par le viol de sa mère par son père. Et on y retrouve des plans de Laval et de Mayenne. Sur plus de 400 inscrits, le court-métrage fait partie des sélectionnés pour la catégorie Jeune Talent 2021. Et vous pouvez le soutenir en votant pour lui jusqu'à samedi en allant sur la plateforme Festival Film Court, tout ça au pluriel.fr.
Et puis, en achetant votre pain, pensez à ceux qui en ont besoin.
Et oui, c'est l'idée de la boulangère Sandrine Ribaud, qu'on a entendue d'ailleurs hier à la JT du local, de la petite boulange à Laval. Le principe, vous achetez deux baguettes, une pour vous et une pour une personne dans le besoin. Cette dernière sera dans la boulangerie et attend d'être offerte à quelqu'un qui en a besoin. La boulangère ne demande rien pour la personne qui souhaite en bénéficier. Pour éviter tout jugement, l'opération est en place depuis 2013, mais a été relancée sur les réseaux sociaux, notamment pour les étudiants et cette période compliquée.
Et oui, une sorte de baguette suspendue. Je connaissais les cafés suspendus en fait, mais ça marche aussi avec les baguettes. Encore une belle initiative solidaire, donc qui marche en tout cas à la petite boulange à Laval. Merci beaucoup Claire.
Merci Marie, merci tout le monde et à demain.
Oui, puisque c'est déjà la fin de cette émission La JT du local pour aujourd'hui, mercredi 3 février. À suivre à l'antenne, il y aura à 19h Novorama et à 21h Chaosphère. Alors là, vous aurez un best-of des émissions en 2020 pour commencer. Et puis nous, on va se retrouver évidemment demain à la même heure, c'est-à-dire à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.
La JT du local.